ce soir, et c'est donc la première étude que nous faisons depuis l'été. Nous allons poursuivre notre étude du XIIIe siècle, l'histoire de l'Église au XIIIe siècle, et je pense que notre programme de cette année sera essentiellement consacré à ce siècle particulièrement important dans l'histoire de l'Église, notamment du point de vue catholique, mais je dirais aussi du point de vue des non-catholiques, dans ce sens que dans ce domaine-là, il a été un siècle particulièrement dramatique où l'Église catholique n'a pas brillé par son caractère évangélique, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous étions restés à la fin du printemps sur la tragique histoire des cathares. Nous avons vu comment l'Église catholique s'était montrée d'une cruauté absolument inexcusable dans cette affaire-là, même si effectivement les cathares étaient des gens qui n'étaient pas orthodoxes au point de vue de la foi chrétienne, c'était vraiment des hérétiques au sens profond du terme, mais bien évident que quelles que aient été leurs erreurs spirituelles, la manière dont ils ont été traités était absolument contraire à la lettre et à l'esprit de l'Évangile et totalement inacceptable. Les cathares, nous avons vu, c'était en quelque sorte la première remise en question du système romain. Il y avait, parallèlement à cette hérésie cathare, il y avait une deuxième contestation du système romain, qui était ce que les catholiques considèrent comme l'hérésie vaudoise. Et d'ailleurs, pendant toute la durée du XIIIe siècle, Vaudois et cathares seront étroitement liés dans la condamnation sans appel que l'Église catholique fera, et puis aussi donc traité par l'Inquisition exactement de la même manière. De la même manière que le faisaient les cathares, les Vaudois remettaient en question le système romain en soi. Ça n'était pas une contestation, de tels points de doctrine ou de tels comportements, comme ça avait été le cas au moment de la révolte de Cluny, ou au moment de la réforme de Cluny ou de la réforme de Cîteaux. Mais ici, c'était vraiment une contestation du système romain en soi. Et c'est pourquoi l'Église catholique a réagi aussi durement vis-à-vis de ces deux mouvements qu'étaient les cathares et les vaudois. L'origine des Vaudois est difficile à situer. On fait partir le mouvement vaudois, en fait, de la conversion de Pierre Valdo, un riche marchand de draps de Lyon, qui était un homme vivant dans les plaisirs, dans l'abondance, l'opulence, n'est-ce pas, et qui, un jour qu'il banquetait avec quelques-uns de ses amis, a été soudain interpellé par le fait que un de ses convives qui était à sa table s'est soudain effondré, victime d'une crise cardiaque, il est mort instantanément. Et soudain, Pierre Valdo s'est trouvé brutalement confronté avec le problème de l'éternité, un petit peu comme l'homme riche de la parabole, qui n'avait pas pensé plus loin que la vie terrestre. Et soudain, Pierre Valdo s'est interrogé sur la destinée éternelle, sur son salut. La question de son salut s'est posée. Et comme Pierre Valdo était un homme riche, il avait les moyens de consulter les textes sacrés, ce qui n'était pas à la portée du premier venu en cette fin du XIIe siècle. Il a lu la Bible, il a lu le Nouveau Testament notamment, et soudain, il a été particulièrement interpellé par le texte de Matthieu 19, vous savez, cet épisode du jeune homme riche, où Jésus donc dit, si tu veux avoir la vie, eh bien va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Et Pierre Valdo a soudain pris cette parole de Jésus au jeune homme riche comme une parole qui s'adressait à lui. Car comme ce jeune homme, de fait, il était riche, et il avait vécu uniquement pour ses biens, pour ses richesses. Et Pierre Valdo a pris à la lettre cette parole du Seigneur. Il a vendu tous ses biens, il les a distribués aux pauvres, il n'a rien gardé pour lui. Il a gardé simplement pour les siens de quoi les mettre à l'abri du besoin jusqu'à la fin de leur jour, ce qui était tout à fait évangélique. Et le reste, il l'a donné aux pauvres, il l'a distribué aux pauvres. Et ensuite, le « viens et suis-moi », il l'a considéré comme, eh bien, étant appelé à aller prêcher l'évangile de lieu en lieu. Et Pierre Valdo est devenu, quelque sorte, le fondateur de ce qu'il espérait bien être, à cette époque-là, un ordre monachique. Car, somme toute, à cette époque-là, c'était le cheminement normal dans l'Église catholique du Moyen-Âge. Toute réforme se concrétisait, se caractérisait par la création d'un ordre monachique. Nous avons vu ça déjà avec Bernard, avec les réformes de Cluny, tous les mouvements qui se sont créés à partir du 5e siècle aboutissent à la création d'un ordre. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique ne supporte pas une remise en question, n'est-ce pas, de l'ensemble de son système. Mais par contre, si elle peut canaliser le mouvement de réforme dans un ordre religieux, eh bien, il ne sera pas gênant. Et en même temps, les âmes d'élite qui ne supportent pas, qui n'acceptent pas la médiocrité générale, vont trouver là, eh bien, un exutoire à leur soif d'absolu. Et par exemple, si vous remarquez des exemples actuels, le mouvement charismatique a été absolument traité de cette manière-là dans l'Église catholique. Non pas qu'il y ait eu un ordre qui ait été créé, un ordre monachique, mais on a créé un mouvement, le mouvement dit du renouveau, qui était une manière de canaliser le mouvement et de faire en sorte qu'il ne déborde pas là où il ne devrait pas déborder, sur les autres secteurs de l'Église, et que ceux, finalement, qui avaient soif d'un peu de vie, un peu d'exubérance, puissent trouver là quelque exutoire. C'est pas bon. Ça, c'est le moyen normal dans l'Église catholique de faire. Donc, Pierre Valdo n'envisageait rien d'autre que cela, la création d'un ordre nouveau qu'il pensait être un ordre mendiant. Et le XIIIe siècle va être le siècle qui va voir l'apparition d'ordres mendiants. Qu'est-ce que c'était que les ordres mendiants ? Bon, c'était évidemment quelque chose qui était profondément inscrit dans le monde culturel du XIIIe siècle, fin du Moyen-Âge, où le mendiant faisait partie de l'univers. Le mendiant, c'était monnaie courante. Il n'y avait rien de... Pour dire, finalement, il n'y avait rien d'anormal, il n'y avait rien, à la limite même du million, que d'être mendiant. Quelqu'un qui se trouvait malade, quelqu'un qui se trouvait âgé, sans ressources, vivait de la mendicité, de la charité publique. C'était une institution, on pourrait dire, du Moyen-Âge européen. Et par conséquent, Pierre Valdo avait considéré qu'on pouvait très bien s'inscrire dans ce courant-là, parce que même si c'était quelque chose qui était officiellement reconnu, que la mendicité, c'était quand même le plus bas de l'échelle, quoi. Et comme Pierre Valdo avait fait l'option de la pauvreté la plus totale, eh bien automatiquement, il avait pris l'option d'être un mendiant. Un mendiant parmi les mendiants. Seulement, la vision de Pierre Valdo n'était pas la mendicité au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'était, si vous voulez, il prenait l'évangile qui dit, quelques lieux que vous entriez, que vous arriviez, entrez dans la maison où on vous recevra, mangez ce qu'on vous donnera, guérissez les malades, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et pour Pierre Valdo, il n'était pas du tout question de recevoir gratuitement, mais il était aussi question de donner gratuitement. Or, donner quoi ? Eh bien, c'était donner sa force, son travail, rendre des services. Et là aussi, c'était une institution du Moyen-Âge, c'est pas l'ouvrier journalier. Il y avait des gens sans travail, sans spécialisation, qui offraient leur travail pour une journée, pour deux journées, pour le temps qui est nécessaire, puis ils allaient plus loin selon les besoins. Et Pierre Valdo, donc, entendait que les prédicateurs qu'il allait envoyer, parce que, bien entendu, d'autres s'étaient rapidement joints à lui, il avait commencé à prêcher, et automatiquement, certains l'avaient suivi, et il envoyait donc les disciples, comme Jésus, deux par deux, reprenant à la lettre l'évangile dans ce domaine-là, et en disant, voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il n'était pas question ici de manger le pain gratuitement, mais d'être un ouvrier qui méritait son salaire. Et si, eh bien, occasionnellement, on n'avait pas été embauché, si il n'y avait rien à manger, alors, dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, on pouvait vivre de la charité publique, donc de la mendicité au sens propre du terme. Mais le premier devoir du vaudois, du prédicateur vaudois, c'était d'être quelqu'un qui travaillait, quelqu'un qui recevait sa nourriture en échange de son travail. Mais, à l'inverse, justement, des ouvriers journaliers de cette époque-là, les vaudois avaient pour interdiction de recevoir un salaire en argent. Et Pierre Valdo avait banni l'argent totalement de son univers, et le salaire qu'il devait recevoir, que ses disciples devaient recevoir, était simplement leur nourriture. L'ouvrier mérite sa nourriture, il avait pris à la lettre la parole du Seigneur. Donc les disciples devaient partir sans bourse, sans argent aucun, et c'est en cela qu'ils étaient des ordres mendiants. La prédication de Pierre Valdo a eu un succès immédiat et a enflammé les foules comme une traînée de poudre, parce que, évidemment, à Lyon, Pierre Valdo était connu, c'était une des grandes personnalités de la ville, et sa conversion avait fait beaucoup de bruit à Lyon et dans les environs. Et lorsque Pierre Valdo prêchait, on s'attroupait pour entendre sa prédication. Et très vite, un mouvement s'est créé à Lyon qu'on a appelé, on ne les appelait pas les Vaudois à cette époque-là, on les appelait les pauvres de Lyon. Et alors, Pierre Valdo, qui était un homme profondément évangélique, a commencé à lire la parole de Dieu. Et nous avons vu qu'il prenait la parole de Dieu à la lettre, même dans des détails que nous avons plutôt, nous, l'habitude en général de prendre au sens symbolique. Mais lui, il prenait à la lettre. Et alors, automatiquement, il a pris à la lettre d'autres textes de l'Évangile. Et notamment, il s'est rendu compte que l'Église catholique était en porte-à-faux total sur un certain nombre de points de principes évangéliques. C'est ainsi que Pierre Valdo, très vite, a été amené à rejeter le purgatoire, le culte des saints, et le système catholique lui-même, pourrait-on dire, les rapports entre l'Église et l'État, la notion du sacerdoce pouvoir, la messe, les sacrements, etc. Et alors on comprend que ces attaques contre des dogmes qui étaient considérés comme essentiels dans l'Église catholique et quelque peu indisposés les dignitaires de cette dernière. Et lorsque Pierre Valdo a sollicité du pape que son mouvement soit reconnu comme un ordre monachique, cela a été refusé. Cela a été refusé dans un premier temps parce que Innocent III, le pape de l'époque, avait décidé qu'il y avait suffisamment d'ordres monachiques et qu'il ne s'en créerait plus. Et nous allons voir que, dans la suite de ses études, il y avait, presque à la même époque, un second personnage qui lui aussi tentait de créer un ordre mendiant, c'était François d'Assise. François d'Assise et Pierre Valdo étaient pratiquement contemporains et ils avaient une vision semblable. Car finalement, la découverte qui était celle de Pierre Valdo était exactement, on pourrait dire point pour point, la même découverte que celle de François d'Assise. Et François d'Assise, lui aussi, quand il a voulu créer un ordre monachique, s'est heurté de la part de la papauté un refus. Un refus pour les mêmes raisons, parce que il y avait suffisamment d'ordres monachiques et l'on ne voyait pas la nécessité à Rome de créer des ordres monachiques nouveaux. Mais très vite, en ce qui concernait Pierre Valdo a continué son mouvement, considérant qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, d'autant que, encore une fois, il y avait des foules enthousiastes qui étaient gagnées par sa prédication, sa sainteté de vie, sa simplicité, la puissance qui était la sienne dans sa prédication. Et très vite, les autorités romaines ont été inquiètes de l'expansion du mouvement. C'est ainsi que quelques années après Pierre Valdo, on trouve des pauvres, comme on les appelait, les pauvres de Lyon jusqu'à Metz, hein, dans l'est de la France. Donc ça donne une idée de la rapidité avec laquelle le mouvement s'était propagé. Et des enquêtes plus serrées ont montré que par rapport à l'orthodoxie catholique, Pierre Valdo était hérétique sur les points que nous avons cités, le purgatoire, le culte des saints, la valeur des sacrements, la messe, le sacerdoce, le système papal, etc. Donc il y avait là une mise en question radicale et fondamentale. Nous étions aussi à cette époque au moment où l'hérésie cathare battait son plein, et par conséquent, il y avait dans l'Église catholique était sur la défensive, l'Église catholique traquait l'hérésie partout où elle pensait la trouver, et très vite, il y a eu une réaction très forte à l'encontre de Pierre Valdo. Pierre Valdo a replacer sa demande donc d'être reconnu comme un ordre officiel de l'Église catholique lors du Concile de Latran. Et le Concile de Latran non seulement a refusé de reconnaître le mouvement des pauvres de Lyon comme un ordre monachique, mais il a interdit à Pierre Valdo de prêcher. Pierre Valdo a passé outre. Et en 1184, Pierre Valdo a été excommunié. Enfin, en 1229, le Concile de Toulouse a condamné l'hérésie vaudoise. Et là, eh bien, les Vaudois se sont retrouvés au même stade que les cathares, donc des proscrits, des hommes qui étaient traqués, et notamment traqués, par cette terrible institution qui se mettait alors en branle, qui était l'Inquisition. Maintenant, si nous reprenons ce que disent les Vaudois eux-mêmes de leurs origines, c'est un peu plus complexe que ça. Ça, si vous voulez, c'est l'histoire officielle. Car très vite, les partisans de Pierre Valdo vont se réfugier dans les montagnes du Piémont, où ils sont difficilement accessibles, bien sûr, à cette époque-là où on n'a pas encore de chars, d'hélicoptères et d'engins de ce type-là, les montagnes sont des refuges quasiment inaccessibles pour les proscrits. Et par conséquent, il y a un réduit vaudois qui se crée dans les montagnes du Piémont. Or, les sources de ce que l'on appelle les Vaudois ont quelque chose à dire, elles, sur les origines du mouvement. Contrairement à ce qui existe avec les cathares, nous avons vu qu'il n'y a absolument aucune source qui émane des cathares eux-mêmes, car toutes ces sources-là ont été détruites par l'Inquisition, si bien qu'on ne sait pas ce que les cathares pensaient d'eux-mêmes, ni ce que les cathares disaient d'eux-mêmes. Et nous avons vu qu'il était extrêmement difficile de reconstituer les doctrines exactes des cathares, puisque on ne connaît ces doctrines que par leurs adversaires, donc ils ont tendance un petit peu à noircir le tableau. Mais pour les Vaudois, il n'en est pas de même, car à l'inverse des cathares, les Vaudois ont subsisté jusqu'à nos jours. Et par conséquent, il y a des sources sur ce que les cathares disaient d'eux-mêmes. Or, ce que les cathares disent d'eux-mêmes est particulièrement intéressant. Bon, au XIIIe siècle, nous les trouvons, nous avons vu donc à Lyon, leur centre. On les trouve dans toute la vallée du Rhône, on les retrouve jusque dans l'est de la France, mais surtout au Piémont, en Autriche et en Allemagne. Or, les Vaudois, même dans les procès, dans les procès-verbaux, des procès qui leur ont été intentés par l'Inquisition, ne reconnaissent jamais que Pierre Valdo est leur fondateur. Ils disent « Nos origines sont beaucoup plus anciennes que cela ». En fait, nos origines remontent au christianisme lui-même. Et d'après ce que les Vaudois disent, eh bien, l'origine de leur mouvement remonte à l'an 70 après Jésus-Christ. Et même à l'époque apostolique. Et selon leurs sources, ce n'est pas Pierre Valdo qui aurait été le créateur du mouvement vaudois, mais un certain Claude de Turin, un des pères de l'Église. Et Claude de Turin était entré plus ou moins en conflit avec un certain nombre d'autorités ecclésiastiques de son temps, parce que pour lui, la justification s'obtenait par la foi seule. Vous voyez ? Et à partir du moment où l'Église officielle s'est écartée de la doctrine apostolique et évangélique, et que par conséquent ceux qui ont voulu rester fidèles à cette doctrine ont été persécutés, eh bien, ont afflué dans les vallées du Piémont, de tous les coins d'Italie, une multitude de réfugiés. Or, d'après les sources vaudoises, ces réfugiés qui sont venus dans les montagnes du Piémont avaient été évangélisés, certains d'entre eux, par l'apôtre Paul lui-même. Alors, je ne suis pas absolument certain qu'historiquement, on puisse prendre au pied de la lettre ce que les Vaudois disent d'eux-mêmes. Mais ce qui est certain, c'est que la vérité est certainement entre les deux. Et qu'il y a eu, dans le nord de l'Italie, depuis une époque très très reculée, un certain nombre de chrétiens qui avaient gardé, on pourrait dire, l'héritage apostolique d'une manière ininterrompue pendant des siècles. Et qu'il l'avait fait d'une manière plus ou moins secrète, parce que depuis les origines, en fait, ils étaient persécutés. Or, la conversion de Pierre Valdo a donné un nouvel élan, un nouvel impact à ces gens-là. Et Pierre Valdo, en fait, s'est rendu compte, entrant en contact avec ces gens-là, qu'ils étaient sur la même longueur d'onde par rapport à eux. Et comme Valdo, Vaudois, Valdenses en italien, est un mot qui peut venir de Valdo, Valdens, n'est-ce pas ? Ça peut venir de Valdo. Eh bien, les inquisiteurs, les adversaires des Vaudois, ont considéré que Pierre Valdo était le fondateur du mouvement, alors qu'il n'était que le catalyseur, celui qui avait donné un nouveau souffle et un nouvel influx à ce mouvement qui existait bien auparavant. On trouve, dès la fin du XIIe siècle, une église vaudoise, nous l'avons vu à Metz, au centre de laquelle se trouvait la prédication de la Bible. On en trouve aussi à la même époque à Cologne, donc en Allemagne. En 1260, en Provence, selon les dires d'un prêtre, qui s'en plaint d'ailleurs amèrement aux autorités, il y avait des églises qui avaient pignon sur rue, des églises vaudoises qui avaient pignon sur rue et qui attiraient une foule de gens qui venaient pour entendre la prédication de l'Évangile. En 1212, les Dominicains, qui sont en charge du tribunal de l'Inquisition, arrêtent dans cette région 500 personnes à la sortie des différents cultes. Donc, s'ils arrêtent 500 personnes, c'est la preuve qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui y participaient. Cette même année, 80 de ces personnes arrêtées sont condamnées et 80 hommes donc sont brûlés vifs, 25 femmes sont enfermées dans des couvents après avoir vu leurs biens confisqués. Et ce qui ressort des rapports de l'Inquisition de cette période-là, c'est que ce soit en Provence, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie ou que ce soit en Alsace, comme ils le disent, la secte est une. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'à cette époque-là, déjà, ces gens-là étaient qualifiés d'être une secte. Et vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Mais ces gens-là, évidemment, niaient farouchement être une secte. Et dans les procès, ils répétaient toujours une seule chose, la continuité d'une tradition qui avait sa source dans l'enseignement de l'Écriture et dans la pratique de l'Église primitive. Ça, ils étaient absolument fermes. Et c'est ainsi que un de leurs pasteurs, qui se nommait Jean, et qui avait été arrêté, avait donné devant le tribunal ce témoignage. Voilà ce qu'il avait dit. « Nous sommes pécheurs comme vous. Nous comptons sur le pardon de nos péchés en dépit de nos mérites. Partout, nous avons et nous professons les mêmes vérités, les mêmes formes de culte que celles que nos ancêtres ont pratiquées pendant des siècles, sans que nous ayons ni confession de foi, ni règle. » Très intéressant, cette affirmation-là. Les Vaudois étaient conscients qu'ils avaient gardé donc le dépôt apostolique qui s'était transmis donc de génération en génération pendant des siècles. Alors ça ne remonte peut-être pas aussi loin qu'ils le disent, qu'ils le pensaient du moins, sincèrement. Mais en tout cas, ça remonte certainement très loin, beaucoup plus loin que ce que l'enseignement officiel catholique affirme. Et alors, ces différentes communautés, pourrait-on dire, effectivement, comme le disaient les adversaires, étaient un sur les doctrines essentielles. Et ce qui caractérisait, ce qui était un texte de l'Évangile particulièrement cher au cœur des Vaudois, c'était le Sermon sur la montagne. Et ils s'efforçaient véritablement de vivre le Sermon sur la montagne. Et à cause de cela, les Vaudois étaient contre la peine de mort. Ils n'avaient jamais de procès entre eux devant les cours, en quelque sorte, officielles. Et ils n'avaient jamais recours à la force pour toutes les questions qui avaient trait à la foi. Ça, c'était pour eux une chose essentielle. La liberté, donc, la liberté de l'individu en face de la foi. Ils ne pouvaient pas être contraints par la force. Et c'est pourquoi, par exemple, les Vaudois ne se défendaient pas quand ils étaient arrêtés. Ce n'étaient pas des non-violents absolus dans le sens que c'était capable de réagir quand ils étaient agressés pour des questions d'ordre, pourrait-on dire, de droit commun. Mais quand il était question de la foi, il ne se défendait jamais par la force, parce qu'il pensait que, en matière de foi, la force devait être totalement bannie. Une chose intéressante aussi, c'est que les Vaudois mettaient en cause non seulement l'institution ecclésiastique, mais également l'institution politique de leur temps. Et ce qui est assez logique, dans la mesure où, à cette époque-là, l'institution politique et l'institution ecclésiastique étaient liées. L'État et l'Église c'était une seule et même chose, en quelque sorte. Et donc, mettre en question l'institution ecclésiastique, c'était aussi mettre en cause l'institution politique. Et cela, donc, les textes de Paul qui disaient être soumis aux autorités, pour eux, ne leur posaient pas problème à ce niveau-là, parce que pour eux, ils estimaient que là, l'État était allé beaucoup plus loin, et c'est la première fois dans les milieux vaudois que l'on entend qualifier le pape d'antichrist. C'est une affirmation qui va être reprise par les réformateurs, puis ensuite par les protestants tout au long des siècles qui suivront la réforme. Mais c'est les Vaudois qui ont les premiers fait cette assimilation entre la papauté et l'antichrist. Et ils considéraient que dans la mesure où les rois, les empereurs, avaient fait allégeance à la papauté, ils n'étaient plus donc dans la ligne de Dieu, ils étaient là pour contraindre par la force en matière de foi, et que notamment sur ces questions-là, ils ne reconnaissaient pas l'autorité de l'État. Et c'est la raison pour laquelle ils ne reconnaissaient pas non plus l'autorité des tribunaux d'État. Ils n'avaient donc pas de procès devant les tribunaux d'État, notamment aussi à cause du texte de Paul, c'est pas de ne pas plaider devant des inconvertis, mais aussi parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité de ces tribunaux qui dépendaient de l'État. Il y avait, si vous voulez, une sorte d'anarchisme vaudois, mais pas un anarchisme, comment dirais-je, violent, comme le sont les anarchistes Bakounine au XIXe siècle, ou des gens comme ça, ou Proudhon, c'est pas. Mais c'était un anarchisme pacifique. Simplement, ils ne se sentaient pas du tout liés par les décisions prises par l'État dans le domaine des procès, dans le domaine de bien entendu de tout ce qui concernait la foi, mais également de tout un ensemble d'autres réalités qui étaient aussi afférentes à la foi. Alors on comprend que dans une société aussi hiérarchisée que l'était la société du Moyen-Âge, eh bien automatiquement les Vaudois se mettaient en marche. Et c'est la raison aussi, c'est une raison pour laquelle ils ont été persécutés. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, ce n'étaient pas des non-violents absolus, dans ce sens qu'ils étaient éventuellement à même de se défendre, et surtout de défendre les frères, s'ils étaient agressés, pour d'autres raisons, encore une fois, que pour des raisons qui avaient à voir avec les questions relatives à la foi. Bon, sur le plan des institutions proprement vaudoises, les Vaudois pratiquaient la Sainte-Cène et, chose intéressante, le baptême des adultes, qu'ils ont abandonné au moment de la réforme du XVIe siècle, quand ils ont rejoint le courant principal de la réforme. Mais les premiers Vaudois, et ça c'est intéressant de le noter, étaient des gens qui pratiquaient le baptême des adultes. Les Vaudois, à cause précisément aussi de leur origine ancienne, croyaient à la succession apostolique par l'imposition des mains. Ils croyaient que les ministères devaient en quelque sorte être reconnus par l'imposition des mains, une imposition des mains qui s'était transmise sans interruption depuis les apôtres, mais il ne faisait pas une obligation absolue de cette imposition des mains dans la ligne de la succession apostolique. Ce n'était pas absolument indispensable. Alors il y avait deux ministères reconnus par les Vaudois. On voit qu'ils avaient une vision évangélique très claire, très nette et très, très biblique, n'est-ce pas? Ils avaient le ministère d'apôtre et le ministère de surveillant, d'ancien. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient redécouvert, si vous voulez, la différence que fait le Nouveau Testament entre les ministères selon Éphésiens 4, ministères apostoliques, et puis les ministères selon les épîtres à Timothée et à Tite. Et alors pour eux, évidemment, la seule chose, c'est qu'ils ne faisaient pas les nuances que fait la Bible entre ces différents ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour eux, il y avait simplement le ministère d'apôtres. Et les apôtres étaient effectivement des apôtres itinérants. Et on voit combien était importante l'itinérance dans la vision des Vaudois, puisque le mouvement était né par la prédication des pauvres de Lyon qui avaient été envoyés par Pierre Valdo, deux par deux, prêcher l'évangile. Et puis il y avait les surveillants, ils appelaient ça les surveillants, qui étaient en quelque sorte à demeure, qui avaient la charge de paître les communautés locales, tandis que les apôtres soit faisaient de l'évangélisation itinérante, soit visiter les églises pour les encourager, pour les fortifier, les communautés locales pour les fortifier. Donc nous avons ici, à l'encontre des cathares, qui était un mouvement hérétique par rapport à la foi biblique, nous avons ici affaire à un courant et à un mouvement authentiquement évangélique. Voyez-vous? Et on peut dire que les Vaudois, effectivement, sont les précurseurs de la Réforme, des gens qui avaient découvert les grands principes de la Réforme bien avant que celle-ci n'éclate en Europe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Vaudois prenaient à la lettre l'exhortation de Jésus, nous l'avons vu tout à l'heure, quand vous entrez dans une maison, guérissez les malades. Autant qu'on le sache, les Vaudois n'étaient pas charismatiques. Je dis autant qu'on le sache, car il n'est pas impossible, je dirais qu'il est même probable qu'il y ait eu des phénomènes charismatiques en leur sein. Mais, comme c'était souvent le cas jusqu'au début de ce siècle, à la fin du siècle dernier, les manifestations charismatiques qui n'ont jamais cessé dans l'Église n'ont jamais été reconnues comme étant conformes à ce qui était décrit dans le Nouveau Testament. Et ces mouvements, ces actions charismatiques étaient considérées comme des phénomènes exceptionnels dont on ne devait pas attendre la répétition précisément chez d'autres. Le Seigneur faisait cette grâce à un certain nombre d'individus pour des raisons qui lui étaient personnelles, et c'est tout, ça n'allait pas plus loin. Et alors, donc ici, guérissez les malades, ça n'était pas guérir les malades par l'imposition des mains, comme c'était le cas pour les apôtres, quand Jésus les a envoyés avec cette parole, mais c'était guérir les malades par des connaissances médicales. Et pour être apôtre, parmi les Vaudois, il fallait avoir des connaissances médicales aussi limitées qu'elles pouvaient l'être au XIIIe siècle. Et les Vaudois étaient fort appréciés, les prédicateurs vaudois étaient fort appréciés précisément parce qu'ils étaient en même temps capables de soigner les malades. Et on venait vers eux précisément pour apporter les malades. Et c'était l'occasion pour les prédicateurs, évidemment, de prêcher l'Évangile. Et le ministère de guérison, donc par la science médicale, a été un des grands moyens par lesquels l'évangélisation vaudoise s'est faite. Et précisément, ces apôtres itinérants, ces apôtres médecins, on les formait pour cela, selon les connaissances médicales qu'on avait à l'époque, ont aussi été amenés à créer des institutions à caractère social pour justement venir en aide aux pauvres et aux malades. Et c'est ainsi que les apôtres ont créé des asiles-refuges un peu partout pour soigner les malades. On appelait ça la maison des pauvres de Christ, la maison de Dieu, tout simplement. Et plus tard, donc, il y a eu un certain nombre de gens au sein du mouvement vaudois qui se sont consacrés spécialement pour gérer en quelque sorte ces maisons, ces hôpitaux, ces hospices. Et on les appelait les bégards. Les bégards, ça vient d'un mot anglais qui signifie mendier, to beg, n'est-ce pas, demander, mendier. Donc les mendiants, les ordres mendiants, hein. et son pendant féminin qu'on appelait les béguines. Plus tard, un certain nombre de ces gens ont rejoint le courant catholique par le biais des franciscains dont nous allons parler. Et jusqu'à aujourd'hui, il existe au sein de l'Église catholique un ordre monastique féminin qu'on appelle les béguines, qui est tout simplement l'héritier de ces gens-là. Hein? Bien, alors, à partir de ce moment-là, on peut dire que le mouvement vaudois s'est institutionnalisé. Et automatiquement, il a été la cible des mouvements inquisitoriaux dominicains, notamment au même titre que les cathares, cela nous l'avons vu. Et c'est ainsi, il y a un détail intéressant, c'est qu'en 1259, l'inquisition dominicaine affirme que cette hérésie existe déjà depuis l'époque du pape Sylvestre, c'est-à-dire 4e siècle après Jésus-Christ, 4e, 5e siècle. Ça veut dire que, à certains moments, les adversaires des Vaudois eux-mêmes sont obligés de reconnaître le caractère très ancien du mouvement vaudois. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'argument, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas, de l'Église catholique à l'encontre de tout ce qui n'est pas elle, c'est que les sectes, comme ils appellent, ont un caractère récent. Bien sûr, vous allez me dire, les Vaudois, ça fait maintenant quand même un petit bail par rapport à notre époque, mais au XIIIe siècle, Pierre Valdo, c'était quand même récent. Or, ici, nous avons un compte-rendu de procès par l'Inquisition officielle, tout ce qu'il y a de plus officiel, dominicaine, qui reconnaît que l'hérésie remonte à l'époque du pape Sylvestre. Et je crois qu'effectivement, là, nous avons un point de repère assez sûr. Si les adversaires des Vaudois sont obligés de concéder que déjà au IVe siècle, il y avait des Vaudois, eh bien, je pense qu'on peut faire remonter l'origine des Vaudois au moins à cette période-là. Donc, on n'est quand même pas loin de ce que disent les Vaudois eux-mêmes dans ce domaine-là. Ça. Et alors, il y a aussi un autre détail intéressant, c'est que, à l'encontre de ce qu'il est dit des cathares, dans les procès-verbaux de l'Inquisition, en général, voilà ce que nous trouvons, ce sont de bons chrétiens. On est obligé de reconnaître que ce sont de bons chrétiens. Mais ils blasphèment l'Église romaine. Voilà le crime qui leur est imputé. Ce sont de bons chrétiens, mais ils blasphèment l'Église romaine. Or, nous sommes ici à l'époque où le pape Innocent III se proclame vicaire de Dieu. Et là, on a une nouvelle gradation, n'est-ce pas, dans les pouvoirs papaux. Et il est dépositaire des deux épées, c'est-à-dire à la fois dans le domaine spirituel et dans le domaine du siècle, dans le domaine civil. Ça veut dire que le pape a le droit de déposer à son gré les rois, il a le droit de relever les vassaux des vœux qu'ils ont formulés à l'endroit de leurs supérieurs, et par conséquent, il a le droit d'intervenir aussi dans le domaine de la répression de l'hérésie par la force. Et le pontificat d'Innocent III, le plus grand pape de la fin du Moyen-Âge, est le pontificat sous lequel il y a eu le plus de sang innocent répandu qu'à aucune autre époque. Et celui que les catholiques considèrent comme leur plus grand pape est en fait un des plus sanguinaires, un des hommes les plus sanguinaires qui ait jamais vécu. En 1215, Innocent III convoque le Concile de Latran. C'est le plus grand rassemblement d'églises de la fin du Moyen-Âge. Et par ce concile, Innocent III entend consacrer la prééminence papale, et le concile se tient dans un déploiement de faste pour impressionner les peuples, en quelque sorte, et consacrer ainsi la puissance de l'Église catholique. 71 primats s'y rassemblent et archevêques, 400 évêques, 800 abbés et prieurs qui, comme on le sait, ont le même rang que les évêques et par conséquent participent au même titre que les évêques à un concile œcuménique. Et c'est au cours de ce concile de Latran qu'est officiellement promulgué le dogme de la transsubstantiation, à savoir qu'au moment où le prêtre prononce les paroles de consécration sur le pain et le vin, plutôt sur le pain, l'hostie, puisque déjà la coupe a été depuis longtemps retirée aux fidèles. Mais lorsque le prêtre consacre, ou plutôt prononce les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », par la vertu de la parole du prêtre, et parce que le prêtre est au bénéfice de l'imposition des mains ininterrompue qui remonte aux apôtres, ce que l'on appelle dans l'Église catholique la succession apostolique, le pain se trouve miraculeusement transformé dans le corps et le sang du Seigneur. Il y a une matérialisation du corps du Seigneur dans l'hostie. Alors, extérieurement, à l'apparence, l'hostie reste, les éléments restent semblables, mais la substance matérielle de l'hostie se trouve transformée. D'où le terme transsubstantiation, changement de substance. Ça n'est plus du pain, même si ça a encore l'apparence du pain, mais c'est le corps du Seigneur, qui est aussi réel que le corps que les disciples ont touché quand ils étaient sur la terre. Et si cette réalité garde l'apparence du pain, c'est à cause de la faiblesse de notre chair, Dieu permettant, par miséricorde pour les pécheurs que nous sommes, que cette hostie, ce corps du Seigneur, garde l'aspect du pain. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est plus du pain. L'hostie consacrée, c'est le corps matérialisé du Seigneur. Ce qui fait que lorsque le prêtre rompt cette hostie, il rompt le pain, il renouvelle le sacrifice de la croix. Jésus est à nouveau celui qui est sacrifié dans son corps. Et ce que les fidèles vont manger, c'est une partie du corps réel, matériel du Seigneur. Voilà le dogme tel qu'il est formulé à ce concile de Latran, 1215. C'est quand même pas récent dans l'histoire de l'Église. Hein? C'est quand même étonnant que pendant 1215 ans, on ne se soit pas aperçu cette vérité. C'est encore plus étonnant qu'aujourd'hui cette vérité soit un petit peu gênante. Parce que c'est quand même vrai que c'est un peu difficile de croire, à notre XXe siècle, à cette histoire d'un changement de substance. Alors on ne retire pas le dogme. Dans l'Église catholique, le dogme, il est immuable. Mais par contre, on peut donner du dogme des explications différentes. Le dogme y reste. Mais on donne de la transsubstantiation maintenant des explications qui sont acceptables pour l'homme moderne. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le dogme il reste. Et le dogme, sa formulation exacte, c'est celle que nous venons de dire. Un certain nombre de temps, on conseillait aux fidèles, quand ils recevaient l'hostie, de ne pas la croquer, parce qu'il y aurait un risque d'avoir le sang plein la bouche. On n'en est plus là aujourd'hui. Mais la réalité demeure. D'où l'expression « sacramentum ». Ça veut dire littéralement un mystère. Ben oui, parce que vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe à ce moment-là. Quand le prêtre prononce les paroles de consécration, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. D'autant plus mystérieux qu'il ne se passe rien, justement. Mais enfin, c'est comme ça. Et qu'est-ce que c'est le mystère ? Dans la tradition catholique, c'est un miracle. On croit au miracle dans l'Église catholique. Pas au miracle tel que nous le concevons. Mais le principal miracle, c'est ça, c'est la transformation de l'hostie dans le corps du Seigneur. C'est le mystère, le sacramentum. Et c'est pourquoi il y a un crime terrible que l'on commettait au Moyen-Âge, c'était la profanation de l'hostie. prendre une hostie consacrée et puis la profaner, la briser, c'était renouveler le crime de déicide. Et on pouvait se retrouver sur le bûcher pour ça. Plus d'un mécréant qui a voulu tout simplement passer un bon moment, rigoler un peu, s'est retrouvé sur le bûcher à cause de ça. Et puis il y avait une catégorie de gens qui étaient régulièrement accusés d'être des profanateurs d'hosties, c'était les juifs. C'est logique. Puisque les juifs étaient les déicides, ceux qui avaient crucifié Jésus, et que ces gens-là continuaient à être contre le Christ, il était logique, dans la mentalité d'un homme du Moyen-Âge, de croire que les juifs cherchaient à perpétuer ce crime, et que les juifs prenaient un malin plaisir à aller voler des hosties consacrées dans les églises pour les profaner, notamment pendant le soir de la Pâque, la fameuse soirée du Vendredi Saint. Et alors, à chaque Vendredi Saint, on trouvait toujours un juif ou deux qui avait une attitude un petit peu suspecte, auquel on faisait un procès, et grâce auquel on arrivait à démontrer que les juifs, une fois de plus, avaient profané l'hostie sacrée, avaient crucifié le Seigneur une deuxième fois. Alors on faisait un autre taffé de juifs, on grillait vif quelques juifs pour clôturer la semaine sainte, ça faisait toujours bien. N'est-ce pas ? Voilà où on conduit ces hérésies. Voilà à quels abominables excès on conduit ce genre d'hérésie. Or, justement, nous sommes à l'époque où, pour la première fois, le Concile de Latran, après avoir promulgué le dogme de la transsubstantiation, promulgue aussi l'hérésie comme étant coupable de mort. Attention. Bon, c'est pas la première fois qu'on massacre des hérétiques. C'est classique. Charlemagne avait déjà commencé quand il avait massacré les Saxons qui refusaient de se convertir, hein, ou ceux qui étaient devenus relapses, ceux qui étaient retournés à leurs idoles. Enfin, bon, l'Église fermait les yeux sur ces menus freudens, surtout quand il s'agissait d'aussi grands personnages que de Charlemagne. Mais elle ne le recommandait pas. C'était une tolérance, mais quand même il y avait un reste de pudeur de la part de l'Église catholique. Bon, c'est pas recommandé. Après tout, si les pouvoirs publics prenaient cette responsabilité, c'était leur affaire, mais comme Pilate, l'Église s'en lavait les mains. Maintenant, l'Église franchit un pas de plus. Non seulement elle ne ferme plus les yeux sur la répression de l'hérésie par la force, par la violence, mais elle déclare qu'un hérétique est coupable de mort. Et comment parvient-elle à justifier évangéliquement cette abomination-là, car elle le justifie bibliquement? C'est ça qui est le plus gros, plus fort, plus incompréhensible. Eh bien, elle prend le texte, vous savez, où Paul recommande que l'incestueux de Corinthe soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Fils de Dieu. C'est un texte mystérieux, bien sûr. Il y a deux interprétations possibles de ce texte sur le plan d'une exégèse non biaisée. Soit le coupable est rejeté de l'Église et il se retrouve dans le monde, donc il est en proie à toutes les tentations de Satan, comme n'importe quel païen qui est dans le monde. Soit, il y a une autre, ça c'est l'interprétation orthodoxe, soit il y a une autre interprétation qui consiste à dire que, eh bien, il y a une puissance spirituelle et que, quelque sorte, spirituellement, cet homme devient la proie de l'ennemi, de Satan, de façon à ce que, étant atteint d'une maladie grave ou étant atteint par l'ennemi dans son corps, il puisse se repentir et se tourner vers Dieu. Mais évidemment, jamais, en aucun cas, il n'a été question d'une mise à mort pratiquée par, sinon par l'Église, du moins avec la recommandation et l'ordre de l'Église. Jamais. Or, c'est ainsi que le Concile va interpréter ce texte. Qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est Satan ? Eh bien, on conclut, c'est celui qui, évidemment, accomplit l'œuvre de Satan, la destruction, de la chair. Ça, pas question que l'Église se charge de cet office-là. L'Église ne va pas quand même aller jusque-là. Ce n'est pas le prêtre qui va servir de bourreau. Mais il y a des bourreaux dans la société civile. Alors, on le livre, comme on l'appelle à cette époque-là, au bras séculier. Le tribunal ecclésiastique le condamne à mort, mais ce n'est pas elle qui exécute la sentence, c'est le bras séculier. Le bourreau, il dépend d'un prince. Chaque prince a son bourreau. Il y a dans l'institution médiévale ce qu'on appelle les seigneurs hauts justiciers, ça veut dire ceux qui ont le droit de mort. Alors évidemment, chaque seigneur haut justicier, parce que la justice, la haute justice, c'est-à-dire le droit de mettre à mort, n'est pas centralisée comme dans les États modernes. Et c'est dans chaque fief, n'est-ce pas, que le seigneur reçoit du roi ou de son supérieur, ou de l'empereur, si l'on est dans le cadre du Saint-Empire romain, le droit de haute justice. À ce moment-là, il fait la loi dans ses États. Il a son propre tribunal et il a ses bourreaux. Et si un hérétique est pris dans le fief d'un seigneur haut justicier, s'il est condamné par le tribunal de la Sainte Inquisition à mort, pour hérésie, il est livré au bras séculier, c'est-à-dire à ce seigneur haut justicier, qui n'a pas de choix, il doit exécuter la sentence. Et ce qui est merveilleux dans cette doctrine, c'est que ce malheureux hérétique, il est mis à mort de cette façon atroce qu'est le supplice par le feu, parce que, il est dit dans un autre texte, dans la première Corinthiens, pour lui il sera sauvé comme au travers du feu. Vous voyez ce que ça veut dire ? Alors on le livre à ce supplice atroce par amour. Pensez, c'est pour le bien de son âme. Je te fais rôtir par amour. C'est une manière assez curieuse de témoigner de l'amour du Christ. Mais enfin, c'était comme ça qu'on le considérait. Alors on dit ceci, l'inquisition c'est un mal nécessaire. De la même manière qu'un médecin ampute une jambe gangrénée pour sauver le malade, de la même manière on rôtit le malheureux hérétique pour que son âme soit sauvée. Son âme sera sauvée, merveilleux. Passera un mauvais moment, puis après, l'âme sera sauvée. C'est horrible. Mais voilà à quelles aberrations l'Église du Moyen-Âge a pu arriver. Et vous comprenez que ce genre de choses discréditait l'Évangile. Et si aujourd'hui il y a ce mouvement de révolte contre l'Église, contre le christianisme, ça a son origine là, dans ces excès. Dans ces excès-là. Et c'est ainsi que l'Inquisition naît quelques années plus tard, en 1229, au Concile de Toulouse, qui est la conséquence du Concile de Latran, qui crée donc le tribunal de la Sainte Inquisition. Pour Innocent III, l'hérésie est une trahison contre Dieu. Or, il y a un seul pays qui refuse l'établissement du tribunal de l'Inquisition sur son territoire, c'est l'Angleterre. Et donc créé le Saint-Office qui a pour charge de traquer l'hérésie et d'arracher les confessions. Bon, comment on s'y prend pour arracher les confessions ? On n'a pas des systèmes aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. On ne fait pas de détails à cette époque-là. On appelle ça la question. C'est très agréable, ça consiste à torturer le prévenu jusqu'à ce qu'il avoue ses crimes supposés ou réels. Son hérésie supposée ou réelle. Alors il y a différentes manières, très très agréables. On appelle ça les brodequins, par exemple. On met les pieds du condamné dans des espèces de brodequins de fer, qui sont deux coquilles, si vous voulez, qui recouvrent le pied, puis on serre. On serre, alors, jusqu'à ce que les os du pied éclatent. En général, avant d'arriver là, le condamné a avoué tout ce qu'on voulait. Il y a une autre manière aussi, qui est de chauffer les pieds du condamné. Ça veut dire on lui met les pieds dans des braises rouges. Là aussi, en général, les effets sont assez rapides. Et en général, le condamné, il avoue tout ce qu'on veut. Il y a une autre manière aussi très agréable qui consiste à mettre des espèces de comment dirais-je, la main dans un espèce de d'appareil en fer qui écarte les phalanges jusqu'à ce qu'elles éclatent, hein, et soient broyées. C'est un peu une variante du brodequin, si vous voulez. Il y a une autre aussi technique très agréable qui consiste à suspendre, on appelle ça le trébuchet. On suspend le condamné à une espèce de potence par les aisselles, puis on le laisse retomber lourdement sur le sol. Alors il se casse bras et jambes, et puis au bout d'un temps, il avoue tout ce qu'on veut. On peut aussi arracher les ongles. Enfin bref, on peut passer des épines sous les ongles. On peut les chauffer aussi, quelquefois des morceaux de fer chauffés à blanc sous les ongles. Enfin, il y a tout un ensemble, c'est très agréable. Par amour, tout ça, par amour, bien sûr, bien sûr. C'est un mal nécessaire, qu'est-ce que vous voulez, sinon le pauvre, il avouera jamais ses crimes. Et alors il y a ce qu'on appelle des juges ecclésiastiques. D'abord ce sont les évêques qui jugent les hérétiques, puis ensuite ce sont les juges ecclésiastiques qui portent le nom d'inquisiteurs. Or, dès l'année 1232, ces juges ecclésiastiques, ou encore inquisiteurs, sont responsables directement devant le pape. Ça veut dire qu'ils échappent à la juridiction civile. Ça veut dire en même temps que la papauté ici, par l'intermédiaire de l'Inquisition, a un pouvoir terrible sur les États, sur les seigneurs. Car sans en référer aux seigneurs locaux, les juges ecclésiastiques peuvent intervenir dans la vie privée de n'importe quel citoyen. On n'appelle pas ça des citoyens, on appelle ça des sujets du roi ou du prince. Sans en référer à ce prince. C'est le point fort, et on dit en même temps le point faible de l'Inquisition, car certains nombres de seigneurs vont se révolter. Ils vont chasser l'Inquisition de leurs États à cause de ça. Parce que l'Inquisition est un véritable pouvoir dans l'État. Et finalement, pendant le XIIIe siècle, pour pouvoir subsister et s'implanter dans les États, l'Inquisition va devoir garder un profil bas. Et finalement, les procès qui vont être menés par l'Inquisition pendant le XIIIe siècle vont être assez peu nombreux. Mais suffisamment spectaculaire pour frapper de terreur les hérétiques éventuels. Et finalement, ce n'est pas au XIIIe siècle que les crimes de l'Inquisition vont atteindre leur paroxysme. C'est dans les siècles suivants, et notamment dans un certain nombre d'États qui accepteront de se livrer pieds et poings liés au pouvoir de l'Inquisition, là où il y aura des princes complètement subjugués par le fanatisme religieux. Et ça va être le cas de deux États en particulier, l'Espagne et le Portugal. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Maintenant, on ne va pas jusqu'à le supplice du feu obligatoirement. Souvent, les pécheurs qui ont été soumis au tribunal de l'Inquisition sont soumis à des peines de discipline ecclésiastique telles que pénitence, amende honorable, pèlerinage en Terre Sainte ou même pèlerinage à Saint-Jacques ou des choses comme ça. En général, ça ne dépasse pas ce genre de choses. Il faut vraiment que ce soit des crimes abominables au sens de l'Inquisition, c'est-à-dire blasphémer contre l'Église romaine, comme font les Vaudois, n'est-ce pas, ou comme les Cathares, pour que l'on aille jusqu'au supplice du feu. Bien entendu, si le coupable refuse de se rétracter et d'accepter les peines ecclésiastiques qui lui sont soumises, alors là, forcément, ils sont brûlés vifs. Alors pour les femmes, il y a une variante quand même, on a pitié des femmes, hein, même. Moyen-Âge, sexe faible, quand même, on a pitié. Alors, une femme convaincue d'hérésie, c'est rare qu'on la brûle vif. Il y a quelque chose de plus agréable, de plus doux, on l'enterre vivante. Les femmes sont enterrées vivantes. Alors, les récits de l'époque nous montrent comment ça se passait. C'était... Alors, on creusait une tombe, tout simplement, quoi, hein. Recouvré de terre. Alors, on voyait la terre qui s'agitait pendant tout un temps, puis de moins en moins fort, jusqu'à ce que finalement la pauvre personne qui était dessous meure asphyxiée, quoi. Voilà où a conduit le fanatisme religieux au Moyen-Âge, XIIIe siècle. L'époque de gloire, n'est-ce pas, du catholicisme. Alors, on a un peu de mal à comprendre la sympathie que les catholiques continuent à porter pour cette période. Mais il est certain qu'à côté de ça, il y a eu des grands théologiens par rapport, évidemment, à la vision catholique qui ont permis, n'est-ce pas, de tu peux gommer toute cette période, les excès de cette période, mais il est certain que au moment de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, pour des gens comme Voltaire, pour les philosophes du 18e, et ensuite les révolutionnaires de 89, eh bien ce siècle, ce sera le siècle des pires abominations. Et toutes les persécutions que la Révolution française, par exemple, fera subir à l'Église, elle le fera au moment de cette période-là. Et finalement, quand on parle des ténèbres du Moyen-Âge, l'obscurantisme du Moyen-Âge, qui est une notion qui naît au 18e siècle, c'est pas, et quand on parle du siècle des Lumières, c'est par opposition aux ténèbres du Moyen-Âge. En fait, le Moyen-Âge, c'est le 13e siècle. C'est uniquement le 13e siècle. Non, là. Mais les excès du 13e siècle ont fait que tout le Moyen-Âge est inclus dans ce siècle-là. Alors que le Moyen-Âge, ça n'a pas été que ça. Il faut quand même le dire. Hein. Le Moyen-Âge, ça quand même, il y a eu quand même d'autres dimensions. Il y a eu quand même. Il y a eu la réforme de Cluny. Hein. Il y a quand même eu les grands ordres monastiques du début. Il y a eu quand même l'évangélisation de l'Europe à partir du 5e siècle par les Irlandais jusqu'au 11e siècle. Ça a quand même été une épopée qui n'est pas ces horreurs-là. Mais voyez-vous, ces horreurs sont devenues telles et ont pris une telle proportion dans l'imaginaire collectif. Et c'est ça l'histoire, voyez-vous, il y a une histoire sélective, une mémoire sélective des peuples. On sélectionne un certain nombre de choses. Évidemment, ce qui reste aujourd'hui dans la mentalité de nos contemporains par rapport à l'histoire de l'Église du Moyen-Âge, c'est ça. Et ces excès-là justifient maintenant les croisades anti-chrétiennes, hein, jusqu'à nos jours. C'est ça qui reste, les excès de cette Inquisition-là. Or, comme nous l'avons vu aussi, les bûchers, les enterrements vivants n'ont pas été quand même aussi nombreux que cela. Ils ont été, les quelques milliers qu'il y a eu pendant le siècle, c'est trop, bien sûr. Mais si vous voulez, on a l'idée aussi du XIIIe siècle qu'il y avait des bûchers qui s'allumaient tous les 8 jours, n'est-ce pas? Bon, nous avons vu les Vaudois sur 500 qui ont été arrêtés, il y en a eu 80 de brûlés vifs. Bon, c'est beaucoup dans toute la Provence, c'est énorme, c'est trop. Bon, tous les cathares de Montségur ont été brûlés vifs, ça fait plusieurs centaines de personnes, c'est énorme. Mais c'est quand même pas tous les jours qu'il y avait des bûchers comme celui de Montségur. Voyez-vous? Mais c'était trop. Et le public n'a pas accepté que, de la part de gens qui étaient chrétiens, qui professaient l'évangile d'amour du serment sur la montagne, et c'est ce qui écœurait les Vaudois, eh bien, on puisse avoir, même pour quelques. Je sais pas, il y a eu peut-être sur le XIIIe siècle, il y a eu 10 000 bûchers. C'est énorme. C'est trop. Mais ce n'est pas quand même quelque chose qui avait lieu tous les 4 matins. Hein. Mais dans l'esprit du public, c'est ça. Et c'est pourquoi le XIIIe siècle est un siècle abominable dans l'histoire de l'Église, dont on continue à porter ici les séquelles. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, les protestants que nous sommes, qui eux-mêmes ont été victimes de persécutions de ce type-là, mais on arrive maintenant à faire un amalgame terrible. Toute religion, aujourd'hui, tout élan religieux porte en son sein l'Inquisition. Toute affirmation d'un absolu porte en elle-même les risques d'une inquisition. Et ce n'est pas l'ayatollah Khomeini ni Saddam Hussein aujourd'hui qui va faire démentir ça. Et finalement, nous qui avons été victimes de ces choses-là, eh bien, nous sommes amalgamés aux inquisiteurs, avec vous. Et nous portons en quelque sorte l'opprobre des inquisiteurs à partir du moment même où nous disons que nous sommes chrétiens, que nous avons une dimension religieuse. Alors, voyez-vous, ici, l'importance de comprendre l'histoire pour pouvoir comprendre aussi les réactions des gens. Alors évidemment, aujourd'hui, ça devient prétexte. Souvent, pour les gens, c'est des prétextes. Mais c'est des prétextes faciles. Et bien sûr, historiquement, c'est facile de démonter ça, disant, mais écoutez, nous avons nous-mêmes été victimes, etc. Mais vous avez cette mémoire sélective des peuples qui fait qu'ils ne gardent de l'histoire qu'un certain nombre d'éléments qui les ont marqués et font abstraction du reste. Et quand même, le Moyen-Âge, maintenant, c'est loin. Et la plupart des gens ne savent pas, ils ne veulent pas savoir ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on pouvait dire de cette situation-là. Mais en même temps, une dernière conclusion aussi, je terminerai là-dessus, c'est que dès cette période-là, eh bien, la réforme est en marche. Les excès de l'Inquisition vont conduire tôt ou tard à la réforme. Elle est en marche parce que déjà les Vaudois l'ont commencé, et puis parce que finalement, dans la mentalité des gens, dans l'esprit des gens, les excès de l'Inquisition rendent impensable la poursuite du système romain, et le système romain qui atteint son apogée, le maximum de sa puissance, est déjà sapé à la base par ses excès mêmes. Et un jour, eh bien, le renverseront. Quand Luther clouera sur les portes de la cathédrale de Wittenberg, n'est-ce pas, le jour de la Toussaint 1517, les fameuses thèses qui ébranleront l'Église catholique tout entière. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions à poser là-dessus ?